Courbons-nous pour dans un temps de prière. Notre Père Céleste, nous venons à toi ce matin avec un cœur qui déborde de joie et de reconnaissance. Pour tout l'amour que tu nous as manifesté, que tu manifestes dans chacune de nos vies, tu nous as rachetés au prix de la vie de ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Tu l'as ressuscité d'entre les morts, lui le premier, et nous avons aussi cette espérance qu'un jour, nous serons tous réunis avec toi pour l'éternité. Ce matin, Père, remplis nos cœurs de louanges et d'adoration, et que nous puissions recevoir le message de ta parole ce matin pour qu'on puisse la mettre en pratique à tous les jours. Bénis ton Église rassemblée ici même, dans ce lieu, pour t'adorer. Garde-nous unis. Veille sur notre témoignage afin que nous soyons dignes d'être appelés chrétiens et que notre lumière brille dans ce monde de ténèbres. Nous te prions, ô Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Eh bien, croyez-le ou non, ce matin, on va enfin terminer la série de messages qui nous portait sur ce que nous croyons, c'est-à-dire notre confession de foi à nous. Et à titre de rafraîchissement pour se remettre dans le contexte, eh bien, la confession de foi, c'est une déclaration. Je déclare ou nous déclarons. Une déclaration qui est ouverte, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de caché. Ce n'est pas quelque chose secret. Elle est ouverte, elle est publique. On se doit de la mettre disponible au public. Et c'est une déclaration de ce que l'on croit, de notre croyance. Ici, on parle évidemment de ce que la parole de Dieu nous dit. Chez les chrétiens évangéliques, comme nous, la profession de foi consiste en un témoignage de conversion personnelle. La conversion, ce n'est pas quelque chose qui a été fait pendant que j'étais bébé ou pendant que quelqu'un d'autre a parlé pour moi. Non, non, c'est personnel à nous tous. On a tous à être convertis. Et cela avant d'être baptisé. Parce que le baptême biblique ne s'applique pas aux jeunes enfants. Nous ne croyons pas au baptême biblique pour les enfants. Mais plutôt pour des adolescents, des adultes matures, des gens qui ont cru sincèrement et qui sont prêts à témoigner de leur foi. Tous les chrétiens qui sont nés de nouveau doivent en tout temps être prêts. Et ça, si j'insiste là-dessus, c'est pas pour faire peur à personne, mais on doit être prêt à témoigner de notre foi devant quiconque demande ou cherche à connaître la vérité. Il y a du monde autour de nous qui cherche la vérité. Et on a tellement peur de leur déplaire en leur disant, « Ben moi, je suis une chrétienne ou moi, je suis un chrétien évangélique. » On a peur de se faire rire de soi. On a peur des critiques qu'on va avoir. On a peur que le lien va être coupé. Ça dépend de la façon dont on va répondre à ces gens-là. Moi, dans le temps que j'ai été converti, quand je me suis converti, je n'étais pas sage. Au point que j'ai tellement insisté, j'avais tellement de zèle, que je me suis mis ma famille à dos.
Et je parlais la semaine, deux semaines passées à un jeune couple auquel je donne un cours de préparation au mariage, et une de ces deux personnes-là, ses parents ne sont pas sauvés, et il avait peur. Et on lui avait dit, « Bien, c'est ça, au bon moment, tu coupes le lien. » C'est faux, ça. On ne détruit aucun pont lorsqu'on témoigne de notre foi. Pierre dit dans sa parole, dans 1 Pierre 3, versets 14 et 16, « D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. » Souffrir pour la justice, on pourrait dire aussi, c'est souffrir pour l'Évangile. Et on sait, on ne devrait pas être triste, on devrait être heureux. N'ayez aucune crainte, ne soyez pas troublés. Pourquoi? Parce que le Seigneur le promet, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et avec respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Il y a quelqu'un qui veut savoir pourquoi tu es différent de moi. Réponds-lui avec douceur, avec respect, avec amour. Vante-toi pas que ta religion est meilleure que la sienne. C'est pas vrai, tu vas détruire toute crédibilité à ton sens et tu vas couper un pont. Dans le contexte dans lequel on vit, nous, là, les gens avant nous, nos parents, c'était des catholiques endoctrinés par la peur. Hors de l'Église catholique, point de salut. Et ces gens-là ont été éduqués que si tu faisais quelque chose de protestant, tu t'en allais en enfer. Soyons prêts à défendre notre foi avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour, avec le respect. Lorsqu'on regarde la vie de Jésus, et là, je ne veux pas m'étendre trop parce que quand je commence à parler, lorsqu'on regarde la vie de Jésus, le seul temps où Jésus manquait de respect, c'était à des gens hypocrites, des pharisiens. Mais à part de ça, il ne faisait pas de différence. Quelqu'un qui voulait apprendre à le connaître, il se faisait connaître. Et au verset 16, Pierre continue dans le passage qu'on a lu, « Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, et oui, on va en recevoir des calomnies, comme si vous étiez des malfaiteurs, oh oui, on va être des malfaiteurs. Dans la fin des temps, on va être des gens, des sectes, qui sont des extraterrestres qui veulent notre mal. Et aujourd'hui, être chrétien, prôner le mariage, prôner le non-avortement, ben on est des ennemis du monde. Mais j'en passe. On va se faire traiter comme des malfaiteurs. Ceux qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. Et c'est ça qu'on doit dégager. Jurez-lui. Et si je me rapporte dans le temps des Romains, on les a mis sur le bûcher, on les a fait dévorer par des lions, et malgré ça, ils louaient le Seigneur. Et ces gens-là étaient remplis de confusion. Comment ils font? Notre confession de foi à nous, l'Église chrétienne évangélique de Hawkesbury, on fait partie d'une association et on adhère à cette confession de foi-là. Elle est fondée dans la foi chrétienne, au travers des enseignements de la Bible. C'est la Bible qui est notre livre de référence. Il n'y a pas un autre petit livre qui s'ajoute à ça. Il y a un paquet de commentaires que des gens, des hommes, ont écrit. Mais c'est la Bible. Et notre confession de foi présente les aspects qui sont essentiels et fondamentaux
de notre façon de comprendre le christianisme. Et ce matin, on va terminer avec le temps de la fin, les temps de la fin. C'est quelque chose qu'on attend tous, du moins ceux qui sont sauvés. On a hâte que le Seigneur revienne. Mais il va revenir en son temps. Nous croyons, premièrement, que le Seigneur Jésus-Christ reviendra à un temps et à un moment connu seulement de Dieu le Père. Ça me fait rire de voir des télé-évangélistes prédire la date ou le temps du retour du Seigneur. Et je ne sais pas, ils ont manqué ce passage-là. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas lu. Mais si on regarde Matthieu 24, verset 36, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Hein? Les apôtres, ils posaient toutes sortes de questions. Et là, Jésus, lorsqu'il est arrivé à la question justement de le temps où il viendrait établir son royaume, Jésus leur dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, imaginez-vous, ni lui-même, mais le Père seul. C'est quoi, tu n'as pas compris? Je nommerai pas les noms, c'était l'évangéliste-là, non? Mais c'est quoi, tu n'as pas compris là-dedans? On va aller voir dans Acte 1, versets 1 à 7. C'est Luc qui parle, puis il dit, « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, l'Évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner dès le commencement. Et jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre de ce que le Père, ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais tout vous, c'est-à-dire dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est la promesse que Jésus a faite. Et à chaque fois qu'on vient au Seigneur, c'est-à-dire pas à chaque fois, mais la fois où on vient au Seigneur, le Saint-Esprit vient avec. Tu n'as pas besoin d'attendre 6 mois, il va arriver là. C'est lui qui t'a convaincu de péché, c'est lui qui vient en toi. Alors les apôtres qui étaient réunis demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Et Jésus répond en disant, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » C'est pas à toi, à moi, à dire, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 20 ans, peut-être telle date. Non! C'est ridicule. C'est avoir une pensée qui dévie de ce que la parole enseigne. Il revient bientôt. C'était bon 2000 ans passés. C'est encore bon aujourd'hui. Le temps, moi j'attends. Ah, il y a des fois, j'aimerais ça, dire, Seigneur, viens non, là. On devrait tous prier pour le retour du Seigneur. Mais on ne va pas y dire quand revenir, par contre. Il va revenir en son temps. Oui, en son temps. Le Seigneur Jésus va revenir physiquement dans la puissance, on croit à ça, là, et la gloire pour établir son royaume terrestre. Et ça, c'est après les tribulations, après les 7 ans, c'est-à-dire que le Seigneur va revenir, va enlever son Église, c'est-à-dire qu'on va aller le rejoindre sur la nuée. Là, il va avoir une période de 7 ans. 3 ans et demi où ce que l'Antéchrist va se faire connaître, 3 ans et demi, ça va être l'enfer sur terre. Et au bout de ces 7 ans-là, là, le Seigneur revient avec son armée. Et là, il va établir son royaume terrestre encore, pendant 1000 ans. Marc 13, 26. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Ça a l'air comme si on va revenir avec lui, je ne sais pas. Là. En tout cas, on n'a rien à faire. On croit aussi que Dieu ressuscitera les morts et jugera le monde. Dans 1 Corinthiens 15, c'est le chapitre qui, dans Corinthiens qui parle de la résurrection. Et les versets 50 à 54 nous disent ceci. « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. » Ça veut dire que il y a des gens qui sont sur la terre qui ne mourront pas, mais qui vont être enlevés. Mais tous seront changés. On sait comment ça va arriver. Les morts en Christ vont ressusciter. En premier, nous, on va aller à la rencontre du Seigneur et on va être transformés, changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Et la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Ça, c'est la première résurrection. Et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire. » Et lorsque le Seigneur va revenir pour l'enlèvement, eh bien, il ne s'en vient pas juger le monde encore. Il s'en vient chercher son Église. Est-ce qu'on va faire partie de l'enlèvement? Ou on va être de ceux qui seront ressuscités, transformés? Au moins, on a cette espérance-là. Il est temps. S'il y a des gens autour de nous qu'on aime, qu'on veut les voir avec nous pour l'éternité, moi je prie à tous les soirs pour que toute ma famille soit au ciel lors du banquet de l'agneau. Celle qui est là, celle qui va venir, parce qu'il y en a d'autres. Je ne veux pas qu'il manque personne. Puis, le plus que je peux faire, c'est de les encourager à s'attacher à Christ, à son Église, à marcher d'une manière digne d'un chrétien. Nous croyons que les non-sauvés seront jetés dans l'étang de feu pour subir pleinement, conscients, le châtiment et le regret éternel. Notre frère Luc nous disait, lors d'une étude biblique, que ce n'est pas le feu qui va nous faire le plus de mal, mais ça va être un feu intérieur dévorant, le fait de voir les fois où l'Évangile nous a été présenté et de voir comment stupide on a été de ne pas recevoir le don gratuit de Dieu. Et les grincements dedans et la souffrance vont être celle d'être privé de la présence de Dieu. J'aimerais ça vous dire, il n'y en a pas d'enfer. Je suis un faux prophète. Il y en a un. Je suis certain que vous n'envoyeriez pas votre meilleur ami ou quelqu'un de votre famille dans des pays où il y a la guerre, où il y a des bombes qui sautent. Pourquoi? Parce que vous auriez peur qu'il se fasse tuer. Je me demande pourquoi qu'on a peur de leur parler de Jésus. Parce que c'est pire qu'est-ce qui s'en vient. Dans Apocalypse, verset 14, verset 11, on a une description de l'enfer. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont pas de repos, ni jour, ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Un petit peu plus loin, Apocalypse 20, 1 à 5. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le diable, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Ça, c'est quand que le Seigneur va revenir, là. Il va toucher à terre. Là, ça va être l'Armageddon. Il va lier Satan pour 1000 ans. Et nous, on va être dans le millénium à partir de là. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Imaginez-vous, là, ça va être 1000 ans. Je ne sais pas si c'est 1000 ans, ou... mais ça va être un temps qui est long, où le mal n'existera pas. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et ce peu de temps-là, il va en profiter. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. La corruption va revenir, ça te prend long. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, les martyrs, à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Il y a un paquet de monde qui vont être sauvés dans les tribulations. Mais attendez pas d'être là si vous n'avez pas fait votre profession de foi. Moi, je n'aime pas souffrir, en tout cas. Mais je sais que si ça arriverait, je vais dire comme John MacArthur, je m'en vais tout de suite devant l'Antéchrist, puis je lui dis, Dieu est vivant, Jésus-Christ est le roi, puis il va me tuer tout de suite. Mais ces gens-là, c'est des gens qui ont souffert durant la tribulation. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ça, c'est dans le millénium. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. La première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Ceux qui vont faire partie de l'enlèvement et de la première résurrection. On est avec le Seigneur. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est ça qu'on va être notre travail. C'est ça qui va être notre fonction. On va être des sacrificateurs. On va régner avec le Seigneur, avec Christ. Pendant 1000 ans. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Et ils investirent le camp des saints de la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Où sont la bête et le faux prophète? Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, il ne fut plus trouvé de place. Je continue verset 12. « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. » Celui que ton nom est écrit dedans depuis avant la fondation du monde. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Nous, on ne sera pas jugés selon nos œuvres. Mais les autres vont être jugés selon leurs œuvres. Et c'est là qu'est la seconde mort, jetée dans l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est peut-être pas le message le plus joyeux, mais c'est la vérité. C'est ce qui attend ceux qui, malheureusement, refusent de croire. Nous croyons aussi que les sauvés de tous les âges seront avec le Seigneur pour l'éternité. C'est-à-dire tous ceux qui, depuis la fondation, la création du monde, qui sont sauvés, vont être avec le Seigneur pour l'éternité. Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures. Ça, j'aime ça, ce verset-là. Dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Hein, c'est encourageant. Le Seigneur est en train de nous préparer notre condo, notre place au ciel. Ça va être une belle place. Il n'y aura pas de ménage à faire. Il n'y aura pas de rénovation à faire. C'est too much, ça. Les Thessaloniciens, eux autres, ils s'inquiétaient. Ceux qui sont morts, là, qui sont morts avant nous autres, là, qu'est-ce qui leur arrive, eux autres? Et l'apôtre Paul leur dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 et 17, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ, il leur dit, là, regarde, les autres, là, qui sont morts en Christ, ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours. Amen. Nous croyons que Dieu dominera éternellement sur son royaume dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Apocalypse 21:1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et ce que notre frère a lu ce matin dans Apocalypse 22, versets 1 à 5, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, ça on l'a lu tantôt, là, quand... Le diable, Satan, il l'a lié pour 1000 ans, il le jeta dans l'abîme, ferma les cellules. Mais en tout cas, juste pour vous dire que le Seigneur va régner éternellement. Hein, pour je cherche le verset là où je suis rendu. OK, verset 5, c'est justement là que je dois. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus besoin de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. C'est lui qui va être le roi des rois. Je conclue en disant ceci. La confession de foi qu'on vous a remise lors de trois semaines passées. Si on va vous en imprimer peut-être encore une meilleure copie. C'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose qui doit être à la portée de la main. Cette semaine, je vais avec un frère témoigner à deux jeunes femmes qui sont des Mormons. Ils nous ont invités à échanger, mais c'était pas, je change rien. Mais on va leur parler de justement la vérité. Puis la confession de foi de notre Église va être dans ma Bible. Parce que je sais qu'avec ça, je vais ouvrir tout. Et j'ai besoin de l'apprendre tout par cœur, ma Bible. Si on veut être en mesure d'annoncer l'Évangile. Et moi puis Mathieu, on a à cœur, mais Mathieu puis l'un de nous aussi, que l'évangélisation prenne racine dans notre Église. Que ce soit un réflexe naturel de vouloir parler du Seigneur. Je lisais un article ce matin dans notre pain quotidien qui disait « La majorité des chrétiens évangéliques américains parlent une fois par semaine du Seigneur. » C'est-tu normal? Je comprends pas. Si on veut être capable d'annoncer l'Évangile à des âmes perdues, si on veut grandir dans la foi, si on veut devenir des chrétiens authentiques, des chrétiens persévérants, on doit, frères et sœurs, apprendre à connaître notre grand Dieu. C'est un must. C'est pas en venant à l'Église une fois par mois que ça va se faire. C'est pas en lisant ta Bible une fois de temps en temps que ça va se faire. C'est pas en te tenant avec d'autres personnes où tu n'as pas un groupe de vie chrétien pour fréquenter. Et ce matin, je nous exhorte, moi le premier, à lire, à méditer à tous les jours la parole de Dieu, de lire, de relire notre confession de foi dans le but d'être en mesure de défendre notre foi avec respect, avec amour, avec douceur, comme Pierre nous encourage, et de faire connaître notre grand Dieu. Si tu n'as pas honte de lui, pourquoi t'en parles pas? Il n'a pas eu honte de toi, lui, sur la croix. Il a donné sa vie pour toi, pour moi, pour tous ceux qui ont cru. Et quand on affirme notre confession de foi, lorsque je dis « Voici ce en quoi je crois », on déclare, on fait cette déclaration-là qu'il est possible de connaître la vérité et d'exprimer cette vérité-là d'une façon objective. Cette façon d'exprimer la vérité sur les Écritures, sur le Dieu trinitaire, sur l'homme, sur les anges, sur ce qui est bien, ce qui est mal, sur le but de l'existence de l'homme, sur l'Église, sur la fin des temps, c'est confesser sa foi. C'est notre confession de foi. Connaître Dieu pour mieux le faire connaître. Hein? On va l'avoir, cette petite banderole-là. Il faut que je parle à Richard. Là. Mais on va faire une place qu'on pourra mettre ça. Là. Connaître Dieu pour mieux le faire connaître. C'est ma responsabilité de connaître Dieu. Vous ne pourrez pas dire, « Ah, c'est la faute de Serge, il ne m'a pas expliqué comme il faut. C'est la faute de Denis, le pasteur. C'est la faute d'un tel, un tel. » Non! C'est ta responsabilité de connaître Dieu en lisant et en méditant sa parole à tous les jours. Tout cela pour mieux le faire connaître, c'est-à-dire propager l'Évangile, au monde entier, le faire connaître, et en obéissant au commandement que le Seigneur nous a donné, « Faites de toutes les nations. » Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, pas moi, Dieu, je serai avec vous, le Seigneur Jésus, c'est-à-dire tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Hawkesbury, Église chrétienne évangélique de Hawkesbury, allons et faisons des disciples. Amen.